nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, après le serment que je vous ai fait sur l'homme qui est essentiellement une âme et non pas un corps, je vous ai promis un serment sur les tempéraments qui sont très enseignés aujourd'hui, y compris chez les traditionalistes et même dans nos milieux, parce qu'ils sont strictement opposés à l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Lorsque Dieu crée l'homme, la Genèse nous dit qu'il lui insuffla l'esprit. Et saint Thomas d'Aquin parle de l'âme humaine, parce que le corps, dit-il, intéresse les médecins et non pas le théologien. En réalité, cette prédominance donnée au tempérament est un des nombreux exemples de la psychologie moderne. Il faudra que je vous parle également de la méthode Montessori, qui est strictement à l'opposé de la méthode de l'Église. Il faudra que je vous parle de toutes ces méthodes modernes, mais nous y viendrons. Première partie, ce qu'est l'homme. Deuxième partie, la psychologie moderne. Troisième partie, les remèdes. Première partie, nous verrons tout d'abord la Genèse. Deuxièmement, la prédominance de l'âme. Troisièmement, les conditions de la vie chrétienne ici-bas, à savoir le péché originel, la croix, la vertu. Donc, dans cette première partie, tout d'abord, la Genèse. Que lisons-nous dans la Genèse ? Faisons l'homme à notre image et à notre similitude, afin qu'il préside à tout ce qui vit sur la terre. Puis Dieu, après ça, s'adressant à l'homme, lui dit, à Adam et Ève, « Soumettez la terre afin de travailler et de garder le paradis. » Dieu nous fixe là le but qu'il recherche. Or, tout ce qui vient ensuite est en dépendance du but. Je suis passé, il y a très peu de temps, à Guédelon, le château fort expérimental, qui est en train d'être construit dans Lyon, je crois. Je me suis arrêté à l'atelier des tailleurs de pierre. Ils taillaient du calcaire, et je leur ai dit, mais le calcaire est d'une pierre tendre. Est-ce que cela convient ? Et la réponse a été, nous construisons un château fort et non pas un château mou. Voilà pourquoi nous prenons un calcaire dur. Comment pourrait-on croire que Dieu ait pris un homme mou pour lui confier la mission qu'il lui donne? C'est très important cela, parce que l'homme étant à l'image et à la similitude de Dieu est d'abord un esprit. Deuxièmement, l'homme reçoit une mission qui est d'être le ministre de Dieu sur la terre, le serviteur de Dieu sur la terre, et puis comme très vite ce sera le péché originel et que Dieu va annoncer la venue du Christ, à ce moment-là la vie chrétienne sera une vie par rapport au Christ. Et on peut dire que dès cette annonce par Dieu de la rédemption par Jésus-Christ, l'homme de ministre de Dieu en général devient serviteur du Christ roi. N'oublions jamais cela. L'homme est le ministre de Dieu sur la terre pour servir le Christ roi. Évidemment, pour une telle mission, Dieu donne à l'homme une âme qui va être à la fois contemplative et pratique. contemplative. C'est l'union à Dieu, la similitude avec Dieu, l'image de Dieu. Dieu se contemple et l'homme, à l'image de Dieu, contemple Dieu. Et il contemple la Sainte Trinité. Et en même temps pratique, parce que sinon il ne serait pas ministre de Dieu sur la terre. Et Dieu va donner à l'homme les vertus qui vont lui permettre d'accomplir sa mission. Des vertus comme la foi et l'intelligence, qui est une faculté, qui lui permettent de contempler, et puis en même temps aussi, en complément, des vertus pratiques, notamment la vertu de prudence, qui va lui permettre de trouver les moyens concrets pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Enfin, Dieu va lui donner un corps animé, parce qu'on ne peut pas évidemment dominer la terre, les oiseaux, les animaux, etc., dont Dieu parle dans la Genèse, sans avoir un corps. Dieu n'a pas confié la garde du paradis terrestre à des anges, il l'a confié à l'homme. Après ça, que l'homme n'ait pas été fidèle, c'est une autre histoire. Mais quand on dit que Dieu donne à l'homme un corps, il lui donne un corps animé. N'allez pas comprendre à l'envers la Genèse. Lorsque Dieu forme l'homme du limon de la terre, beaucoup de gens croient que Dieu fait une petite statuette en argile et puis souffle dessus, et qu'à ce moment-là, cette petite statuette devient un homme. L'Écriture sainte ne dit pas qu'il souffle dessus, mais qu'il souffle dedans, c'est-à-dire qu'il lui inspire son esprit. On voit mal Dieu inspirer, c'est-à-dire mettre son esprit à l'intérieur d'une petite statuette. Cette expression que Dieu forme l'homme à partir du limon de la terre est une expression très imagée, très vraie, mais très imagée, pour dire que l'homme a en commun avec la matière des éléments matériels. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir ce que dit la Genèse, que ces éléments matériels, qui ont une ressemblance avec la terre, puisque l'homme est plein d'eau, par exemple, 80% d'humidité, paraît-il, cette ressemblance n'est que purement matérielle, parce que Dieu insuffle son esprit, ce qui fait que même le corps de l'homme est un corps animé, et qui dit corps animé, dit des passions. Des passions qui étaient fort bénéfiques au début, qui sont un enthousiasme. Il suffit de voir un cheval à la course pour voir ce qu'est une passion. Il suffit de voir, j'ai vu cela une fois, une démonstration des chiens sauveteurs en mer pour voir ce qu'est une passion animale. Chose excellente. Le péché originel est venu blesser nos passions, et du coup maintenant la passion a une tendance mauvaise, j'allais dire naturellement, mais de nature blessée. Et elle doit retrouver sa dignité. La vertu va justement, puisque l'homme a une mission, il va prendre en main les difficultés créées par le péché pour les redresser et retrouver les atouts que Dieu lui a donnés en le créant. Enfin, effectivement, ce corps animé est un corps et il y a des fonctions physiologiques qui sont des fonctions de l'homme, dit saint Thomas d'Aquin, mais pas des fonctions proprement humaines, c'est-à-dire la digestion, la respiration, le fonctionnement du foie, de la rate, etc. Et c'est à ce niveau-là que se situent les tempéraments, puisque le sanguin, c'est le foie, le cœur, la bile pour le foie également, la rate produit l'atrabile, et le cerveau, le phlegme. Voilà. Saint Thomas fait bien la distinction. Il dit les activités qui découlent de cela, ce sont des activités assumées par l'homme, mais qu'il a en commun avec les animaux, et même avec les plantes d'ailleurs. Donc elles ne sont pas vraiment humaines. Elles sont assumées par l'homme qui les met à son service et qui les met au service de sa mission. Cela nous permet d'arriver au grand B de cette première partie sur la prénominance de l'âme. Je vous fais quelques citations comme cela qui me sont venues à l'esprit. « Tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je t'emmène. » Turenne, promu maréchal de France à 32 ans, il s'adresse à lui-même lorsqu'il s'apprête à reprendre du service 20 ans après sa brillante guerre de 30 ans. Il a alors 56 ans. Donc vous voyez le maréchal de Turenne, à 56 ans, qui repart à la guerre, et dans tous les périls de la guerre et tous les inconforts, qui va coucher sur la dure, qui va subir le froid, etc., et qui dit à son corps, « Tu trembles, carcasse, parce que c'est normal que le corps tremble, qu'il ait peur. Tu tremblerais bien davantage si tu savais où je t'emmène. » Mais justement, c'est l'âme, c'est l'homme qui domine et le corps va suivre. J'ai trouvé une citation de Madame de Sévigné, qui est contemporaine de Turenne, qui dit ceci. « La nouvelle du siège de Charleroi a fait courir tous les jeunes gens, même les boiteux. » On voit que un boiteux, quand il est pris par un enthousiasme, arrive à courir. Certainement, il ne courra pas comme un bien portant. Mais vous avez le général Sonis, héros de la guerre de 70, sera amputé d'une jambe pour avoir passé toute la nuit, il avait été laissé comme mort, et malgré tout, il continue son service, il monte à cheval, et lorsqu'il son moignon est en sang, parce qu'il met son moignon dans une fausse jambe en cuir, pour tenir sur sa selle, la selle du cheval, le moignon est en sang, et il continue à se battre. Tous ceux qui connaissent l'art équestre savent qu'un cheval ne fait des merveilles que si le cavalier lui communique son propre enthousiasme, son enthousiasme de cavalier. Et ce cavalier, lui-même, pour être enthousiaste à cheval, soit il le fait parce qu'il aime beaucoup l'équitation, soit il le fait parce qu'il va à une mission qui le dépasse et il communique cela au cheval. Il y a une accointance entre un cheval et son cavalier. Et vous imaginez, le cheval qui va à la guerre, si le maître n'a pas envie d'aller à la guerre, le cheval n'aura pas envie non plus. C'est l'enthousiasme du cavalier, du maître, qui se communique au cheval. C'est la même chose dans toutes les courses de chevaux, d'ailleurs. Et je terminerai avec un autre exemple, mais on aurait pu en prendre des centaines. Saint François de Sales était très colérique. Et là, on est dans les tempéraments, là. Le foie est suractif, et donc la vivacité est grande. Saint François de Sales était colérique. Or, il a été réputé pour sa douceur, parce qu'il a appris à dominer son tempérament. Toujours dans le premièrement sur ce qu'est l'homme, il faut grancer que je vous parle du péché originel, de la croix, de la vertu, qui sont des notions complètement oubliées par la psychologie moderne, que ce soit les tempéraments, qui évidemment ne peuvent pas penser à tout cela, puisque c'est une analyse médicale du corps, une mauvaise analyse médicale, mais une analyse médicale. Oublié par les tempéraments, oublié par la méthode Montessori, oublié par toutes les méthodes de psychologie moderne. L'homme est profondément blessé par le péché et il faut réagir contre cette blessure. La réaction se fait notamment par la pénitence, par l'ascèse, voyez, qui permet aux chrétiens de ne pas subir ses passions. L'ascèse ne s'adresse pas directement au corps en tant que corps, elle s'adresse aux passions. Mais pour dominer les passions du corps, il faut bien dominer le corps, d'où le jeûne, d'où toute cette pénitence dans l'exercice de son devoir. Les blessures du péché originel ne sont guéries que par la croix. Dieu le Père n'a pas, avec Dieu le Fils, utilisé la méthode Montessori ni la méthode des tempéraments, ni les méthodes de psychologie moderne. C'est exactement l'inverse. Il a dominé les passions, et il en va de même chez tous les saints. C'est par la croix que les saints deviennent saints, c'est par la croix que notre Seigneur règne sur le monde, et par conséquent, le ministre de Jésus-Christ, le ministre du Christ-Roi, ne peut pas faire régner le Christ-Roi sur le monde sans la croix, donc sans la porter lui-même, et sans la faire porter aux autres. Vous commencez à vous rendre compte pourquoi ces méthodes modernes de psychologie ont tellement d'audience aujourd'hui. C'est parce que plus personne aujourd'hui ne tient ce discours qui n'est autre que le discours de l'Église, à savoir que l'homme ne domine le monde que par la croix, en portant la croix et en la faisant porter aux autres. Enfin, ces méthodes modernes oublient complètement la vertu. On suit un instinct, bien sûr, puisque on analyse les passions, et même moins que les passions, puisque, je vous l'ai dit, on est dans le domaine médical avec les tempéraments. La bile, le sang, tout ça, c'est médical. Alors si on arrive à expliquer l'homme avec ça, plus besoin de pénitence contre le péché originel, plus besoin de la croix, plus besoin de se donner de mal pour servir le Christ-Roi. Et j'entre ainsi dans la deuxième partie de ce sermon. Tout d'abord, ces méthodes de psychologie moderne évacuent la croix. Or, les quatre tempéraments, je vous dis, ce n'est même pas de la bonne médecine, c'est de la mauvaise médecine. Il n'y a qu'à lire le Malade imaginaire de Molière avec les humeurs. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des humeurs dans le corps, et ça serait intéressant justement de revenir à une médecine qui ne voit pas les choses de façon chimique, si je puis dire, qui tienne compte des humeurs. Enfin, les quatre humeurs, c'est quand même un petit peu restreint comme analyse. Je vous ai parlé de la méthode Montessori, qui est une méthode dans laquelle on se met à la remorque de l'enfant. Et pour que l'enfant apprenne, il a envie de se coucher par terre, qu'il se couche par terre. Ça lui est facile de faire ainsi, qu'il fasse ainsi. On suppose que moins il y aura d'efforts, plus l'enfant apprendra. C'est le contraire. Tout apprentissage suppose un effort. Et plus on fait pratiquer l'effort, plus l'effort devient facile. Je voudrais vous parler également de ce livre très mauvais, « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Ça a été écrit par un homme divorcé, qui est égoïste avec sa deuxième femme, la femme avec laquelle il vit après avoir divorcé, ce n'est pas une épouse. Elle va lui dire, mais tu n'as rien compris à la psychologie féminine. Alors elle va lui enseigner la psychologie féminine. Certainement, derrière cela, il y a quand même quelque chose d'humain, parce qu'il reste quand même d'esprit de sacrifice, un petit peu d'oubli de soi, des choses comme ça. Mais ça, ce ne sont que des restes qu'on trouve dans tous les livres chrétiens qui traitent de la vie chrétienne, et de la domination des passions, et de la vertu. On n'a pas attendu « les hommes viennent de Mars et la femme de Vénus » pour dire à l'homme ce qu'est la femme. Saint Paul l'a déjà dit. Il a dit à la femme « obéissez à votre mari et au mari aimez vos épouses ». Mais il leur a recommandé également la pratique de la chasteté, au moins de temps en temps, et non pas de suivre leurs impulsions. Vous avez également, dans beaucoup de bibliothèques catholiques, les livres de Pierre Dufoyer, qui ont été réédités par un éditeur catholique il n'y a pas longtemps, et qui sont tous aussi mauvais les uns que les autres, parce que c'est tous du psychologisme. Par exemple, ce que les filles attendent des garçons. Si vous posez la question comme cela, bah évidemment, les filles attendent des garçons qui soient doux, qui soient attentionnés, qu'ils soient des chevaliers servants, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des hommes. Qu'ils soient au service de leur épouse, et donc qu'ils ne soient pas des chefs de famille. Encore moins destiné à travailler en dehors de la famille au service du Christ-Roi, et encore moins que leur mission soit de mettre toute la famille au service du Christ-Roi. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas être doux, puisque saint Paul demande aux maris d'aimer leurs épouses. Je dis seulement que la douceur est une qualité avec laquelle ils donnent ce qu'ils ont à donner, mais que cela ne définit pas leur mission. Comment voulez-vous avoir des enfants qui se dévouent au service du Christ-Roi? Je pense comme ça, ce qui me passe par la tête, les infirmières. Les infirmières missionnaires, j'en ai connu, qui étaient d'un dévouement extraordinaire. La maîtresse que j'avais en septième, je garde un souvenir ému de son dévouement, je vous en ai déjà parlé. Sans parler des religieuses, comment en voulez-vous qu'on ait cela si l'homme est le chevalier servant de la femme? Pas possible. Il ne faut pas demander à la femme ce qu'elle attend de l'homme, parce qu'elle aussi elle est blessée. Vous demandez à un blessé ce qu'il attend, il attend de ne pas souffrir. C'est surtout pas avec cela qu'on devient courageux pour le service du Christ-Roi. Alors il faut dire, comme saint Paul, aux jeunes femmes ce que leur mari va leur donner et leur devoir de recevoir de la part de Dieu ce que leur mari leur donne. Le grand B, je voulais parler de la psychologie en entreprise très brièvement. Ce sermon est déjà un petit peu trop long. J'aurais dû en faire deux, un sur la Genèse et puis un sur les méthodes Montessori. Enfin, c'est comme ça. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, je parle des DRH, vous voyez, je ne parle pas des entreprises à taille humaine. Que font-ils quand ils recrutent? Ben, ils ne veulent pas se donner de mal. Ils ne sont pas là pour éduquer les employés. Ils ont des employés qui sont plus ou moins vertueux. Qu'est-ce qu'on fait? On joue sur les passions. C'est-à-dire qu'on vérifie que l'employé n'a pas de passion gênante pour l'entreprise. Et on vérifie que les passions qu'il peut avoir sont des passions utiles à l'entreprise. Mais on a oublié ce qu'est une entreprise. Pour savoir ce qu'est une entreprise, regardez ce qu'est un atelier avec des apprentis. Parce que l'ouvrier dans l'atelier était un apprenti. Quand le maître reçoit l'apprenti, est-ce qu'il lui demande s'il est sanguin, s'il est bilieux? Parce qu'aucun des quatre tempéraments n'est parfait. Qu'est-ce qu'il dit, le maître? Mais viens là, mon garçon, je vais t'apprendre à travailler. Alors, suivant les cas, il va lui apprendre à dominer ceci, à dominer son travail manuel. Il va lui apprendre à vivre avec les autres ouvriers, les autres compagnons dans l'atelier. Il va lui apprendre l'humilité. Il va lui apprendre l'obéissance au patron. Il va lui apprendre le goût du travail bien fait. Troisième partie, les remèdes. Ah non, je voulais d'abord vous parler, grand C, des rapports avec les philosophies modernes. Vous savez, les philosophies de Kant et tous ces modernes qui nient la vérité, qui partent de l'intérieur de l'homme, et puis l'homme refait la création à son goût. Et alors à ce moment-là, ce n'est plus Dieu qui dit « faisons l'homme à notre image », c'est l'homme qui dit « transformons la création à notre image ». Et ça, c'est le modernisme. C'est Gaudium et Spes de Vatican II. L'homme a été mis sur la terre pour transformer la création à l'image de l'homme, le culte de l'homme. Le vice est beaucoup plus profond qu'on croit. Troisième partie, les remèdes. Tout d'abord, une grande union à Dieu. Je n'ai pas besoin d'insister pour vous le dire, mais après ça, il va falloir insister dans la pratique. Un grand amour de la croix. La vertu. Beaucoup de parents, hélas, éduquent les enfants en fonction du résultat et non pas en fonction de la vertu qu'ils mettent dans une œuvre. Alors bien sûr, on va un petit peu tenir compte des tempéraments, c'est-à-dire des conditions physiologiques, mais il n'y a pas que les quatre tempéraments, il y a les gros, les maigres, il y a les myopes et les hypermétropes, il y a les manchots, il y a les faibles, les forts. Alors si on se mettait à s'adapter à tous ces tempéraments-là, on n'en sortira pas. Non, qu'est-ce qu'on fait? On met tout cela au service de Dieu, dans toute la mesure où on le peut. Alors vous allez me dire, mais malgré tout, un gros, on ne peut pas lui demander de travailler. S'il est obèse, on ne peut pas lui demander de travailler à l'atelier. À l'atelier, non, mais au service de Dieu, oui. Même un obèse peut travailler au service de Dieu. Jacques Darnoux, qui était cloué au fond du lit, après avoir été un héros de la guerre de 14, il est aviateur, il est tombé avec son avion, il a été paralysé. Donc il a été cloué tout le reste de sa vie, cloué au fond du lit. Il a été un héros spirituel. Il a écrit des livres que je vous recommande, qui sont à l'opposé des tempéraments, parce qu'au lieu de s'écouter, on écoute Dieu, on accepte d'être au fond du lit. Je ne vais pas vous dire qu'un bilieux n'est pas bilieux, qu'un sanguin n'est pas sanguin, encore que il y a tous les degrés, hein, et puis il y a tous les mélanges. Mais je ne vais pas vous dire qu'un obèse n'est pas obèse et qu'un myope n'est pas myope. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'excuse pas les passions, la paresse, le laisser-aller, les caprices pour tout dire, sous prétexte que le myope est myope, que l'obèse est obèse, que le maigre est maigre. Chacun voit comment il va servir Dieu avec cela. Saint Thomas d'Aquin était obèse, il a fallu faire un trou dans la table, on ne peut pas déplacer les bancs au monastère. Si vous déplacez les bancs, le voisin de table ne peut pas manger parce qu'il est trop loin de la table. On avait fait un trou dans la table pour saint Thomas d'Aquin. Ça ne l'a pas empêché d'être un grand saint et d'avoir une intelligence brillante. Vous imaginez que sa maman, sous prétexte de l'obésité, lui ait passé ses caprices. Ben, on n'aurait pas saint Thomas d'Aquin, et puis je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler. En tout cas, je ne pourrais pas vous faire le sermon que je vous fais. Alors, par pitié, mettez-moi tous ces trucs-là à la poubelle, les Montessori, les Mars et Vénus, la psychologie du couple, les pierres du foyer, et toutes ces choses-là, et puis ouvrez Cassien, les conférences de Cassien aux moines, ouvrez Saint-François de Sales, qui est certainement le plus moderne des saints qui enseigne avec beaucoup de douceur à se dominer. Ouvrez les Fioretti de Saint-François d'Assise, ouvrez la vie des saints, tout simplement. Ou bien lisez les récits des missionnaires. Que la Sainte Vierge vous aide à non seulement être courageux, mais être de vrais bons serviteurs du Christ roi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.